Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Et oui, l'after continue jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs. Nous sommes en direct du Qatar, ici à Doha, dans notre studio, avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et avec Kevin Diaz qui nous rejoint. Salut Kevin.
Salut messieurs.
Tout à l'heure jusqu'à 1h du matin, Nico Villas, Thibaut Jean-Grande seront là, toute l'équipe avec leurs invités, avec vous, les auditeurs des RMC de l'after qui voulaient participer. On vous attend évidemment. Entre minuit et une heure également, vous pouvez, si vous voulez venir en studio, envoyer un mail à Max du Standard. Vous envoyez un mail sur standard@rmc.fr. L'after est là, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec les deux premiers huitièmes de finale. On a les affiches. Donc l'Angleterre qui affrontera le Sénégal et les Pays-Bas qui joueront contre les États-Unis. Et puis on aura des invités ce soir ici à Doha. Vous savez que notre studio est toujours ouvert. Tout à l'heure, nous aurons les invités sénégalais, Daniel, qui étaient au match. Parce que là, le Sénégal est en feu ce soir.
Et qui doivent être très contents.
Exactement.
Et nous aussi, on était au match.
On était au match.
Alors, nous, on était du côté. On s'est retrouvés avec des billets. On était avec les Équatoriens.
Ouais. Kevin, Daniel est allé au match.
Ah, bravo.
Avec les Équatoriens. Et j'ai appris une super chanson.
C'est ton combien de
temps? Ce que je dois dire en chanson, franchement, les Équatoriens, c'était bien.
C'était bien.
Ouais, c'était.
Tu sais, toi qui aimes bien les chansons de stade et tout.
Ah, moi j'adore. Moi j'adore.
Ouais, ils sont forts. Les Sudam, ils sont forts pour ça.
Ah, j'ai envoyé à Daniel la vidéo
des Argentins.
Du vestiaire argentin après la victoire contre le Mexique, quoi. Mais les mecs, ils font vraiment une chanson, quoi. Les mecs sont des chanteurs.
Vous avez vu la polémique sur ce vestiaire?
Ouais, j'ai vu.
Le maillot mexicain de Messi.
Ouais.
T'as vu ça, Daniel?
Non.
En fait, Messi, il a échangé son maillot avec un Mexicain. Et en fait, il arrive dans le vestiaire. Il fout le maillot mexicain par terre devant lui à sa place. Donc en gros, en mode serpillère devant moi. Quoi.
Oui.
Donc ça a été détourné avec des images avec un balai, tu sais, le maillot en mode serpillère dans le vestiaire. Autant dire que les Mexicains ont apprécié.
Donc, ça, c'est un maillot qui peut se vendre très cher dans une aux enchères dans 10 ans.
Non, mais c'est surtout Gilbert.
Ça peut finir dans le catalogue.
Le maillot serpillère du Mexique.
De notre horrible.
Notre ami Jean-Marc Lenné.
De Jean-Marc, voilà.
C'est surtout un boxeur. Je ne sais pas si c'est Canelo Alvarez, mais c'est un boxeur mexicain surtout qui l'a pris mauvaise et qui.
Ouais. Et dit, si je le crois, je lui remets une.
Ouais, c'est ça.
Bon. Tout ça pour une image volée de vestiaire, en vrai. Hein.
Oui, c'est clair.
Bon, alors, on programme jusqu'à minuit, évidemment, l'analyse des matchs du jour. Julien Laurence pour l'Angleterre dans quelques instants. Hamza Rahmani sera également avec nous pour parler du Sénégal et de la Tunisie, puisque demain, il y a évidemment France-Tunisie. Vous saurez tout de ce match, enfin, en tout cas, concernant l'équipe de France, la compo probable, ce sera tout à l'heure, on en débattra. On clôturera définitivement le dossier Benzema, puisque Deschamps l'a fait aujourd'hui, sans oublier tout le reste de l'actu du jour. Dans l'after, jusqu'à 1h du matin. T'as vu le nouveau président de la Juve, Daniel? T'as vu son nom?
Je l'ai oublié, mais j'ai vu, évidemment, j'ai suivi ça de près.
J'ai oublié son nom, Ferrero.
Oui, voilà, c'est parce qu'il est Suchard.
Voilà.
Le Rocher.
Évidemment, les blagues tout de suite, on l'aurait plus vu en ambassadeur qu'en président.
Surtout à Monaco.
Par exemple.
Il aurait pu être président de Monaco.
Exactement, bah non, c'est le nouveau président de la Juve.
On en parlera tout à l'heure peut-être, parce que j'ai vu qu'également Javier Tebas s'était réjoui du départ d'Agnelli. Petit règlement de compte, mais j'expliquerai pourquoi ce règlement de compte tout à l'heure, vite fait. Voilà.
Julien Laurence est là, il a vu le match de l'Angleterre, hein, il était sur place à Angleterre-Pays de Galles. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien.
Salut Julien.
Bon, on a l'impression que on s'attendait à ce que ce soit déséquilibré. Julien, là, on a eu donc une victoire large des Anglais, 3-0.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait la diff sur deux buts en deux minutes, en début de seconde période, 50e, 51e, le coup franc de Rashford qui est magnifique et ça fait du bien de retrouver un Marcus Rashford dans cette forme-là, parce que même son deuxième but, s'il a un peu de chance, ça passe entre les jambes du gardien, mais avant le contrôle, la course qu'il fait, l'appel qu'il fait, le crochet pour revenir sur son pied gauche et tout ça, c'est bien de voir un Rashford comme ça. Ten Hag a fait vraiment du bon travail pour le relancer, lui redonner confiance. Ils ont beaucoup travaillé ensemble à United, à l'entraînement et tout ça. Donc c'est vrai que les Anglais ont fait la différence. La première période était pas très bonne, j'ai trouvé. Il m'a un peu fatigué encore, le Sylvain Ripoll anglais, avec sa composition et tout. Mais bon, gardons le positif pour une fois. La qualification, la première place, les trois buts, Phil Foden, enfin titulaire et buteur en plus. Ça faisait deux ans presque qu'il avait plus marqué en équipe nationale. Donc c'est une très bonne chose pour lui aussi.
Alors justement, moi j'ai des questions à te poser là-dessus, Julien. T'as parlé de la compo. J'aimerais bien qu'on remette un petit peu ça dans le contexte, parce que donc, évidemment, au coup d'envoi, après un très bon match, un match décevant, troisième match, je vois la compo, les côtés ont changé, je parle de l'animation offensive, hein, donc Sterling, Saka ont laissé leur place à Foden, Rashford, d'accord ? Est-ce que c'était quelque chose qui, en Angleterre, était demandé ? Pour Foden, je sais qu'il y avait eu débat, mais en même temps, est-ce que les deux avaient déçu ? En fait, la question qu'à chaque fois que je me pose, c'est est-ce que ceux qui rentrent doivent être bons? Est-ce qu'ils piquent la place de ceux qui... Tu sais, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont de même niveau à peu près tous. Tu vois, c'est pas si Mbappé sort, on a le sentiment que c'est un mec moins fort qui va prendre sa place. Là, tu sors Saka de l'autre jour, qui en plus avait fait un bon match contre l'Iran. Tu mets Rashford à sa place. Bon, bah, il va être bon aussi, quoi, tu vois. Et Foden, c'est un bon. Tu vois, c'est, en fait, j'ai peur que les hiérarchies, ça, ne s'établissant pas, ça finisse par être un problème pour l'Angleterre, en fait. Mais peut-être je me crée un débat inutile, j'en sais rien.
Non, c'est ça, hein. C'est ça d'ailleurs. Mais parce qu'en fait, on pense tous que Southgate ne connaît pas encore son meilleur 11, en fait. Et qu'il a beaucoup de mal à gérer ce groupe-là, cet effectif-là, les 26 joueurs, et qui faire jouer quand. Pourquoi? Dans quelle position? De quel côté? Ce soir, par exemple, je pense que c'était purement une rotation.
Pardon, je te coupe. C'est comme à l'époque où il y avait Lampard et Steven Gerrard. Tu te souviens de cette époque où on disait, mais attends, c'est les deux meilleurs milieux de terrain du monde. Et à ce moment-là, à la grande époque, fin des années 2000, par là, c'est les deux meilleurs milieux de terrain du monde. Et ben, ensemble, à chaque fois, t'as l'impression qu'ils se marchaient dessus. Ça collait pas. Mais tu pouvais pas en sortir un des deux. Peut-être que le jeu aurait été un des deux avec d'autres mecs et pas les deux ensemble. Mais c'était impossible dans l'un des deux. Les deux étaient trop forts. Et à chaque fois, finalement, il y a peut-être trop de bons joueurs en Angleterre. Ça réussit pas à donner un 11 clair et net. Je sais pas, moi, chaque fois que je vois l'Angleterre, je me prends la tête avec ces questions-là. Je me pose tout le temps ces questions.
Non, mais t'as raison, mais je pense qu'il se les pose aussi. Mais ce soir, juste pour finir, je pense que c'est vraiment la rotation d'un troisième match de poule et il allait pas faire débuter une troisième fois d'affilée Saka et Sterling, surtout qu'en plus Sterling avait été très mauvais lors du match contre les États-Unis et que la grande polémique, en tout cas le grand débat en Angleterre, ça avait été depuis pourquoi est-ce que Phil Foden est resté sur le banc, pourquoi est-ce qu'il a joué que 19 minutes. Donc de toute façon, il était obligé de faire débuter Foden, sinon c'était ne serait-ce que pour calmer le jeu, sinon ça aurait été l'incendie de fou. Donc il était obligé de le faire. Après, effectivement, c'était Saka, Rashford, mais Rashford qu'on avait vu très bon entrer en jeu contre l'Iran, je pense méritait aussi dans un sens sa titularisation. Et donc après oui, tu fais des choix. Grealish par exemple semble simplement être un remplaçant, un super sub, parce que lui il fait que entrer en jeu, il a même pas été titularisé. Donc on verra bien contre les Sénégalais, mais je pense quand même, alors c'est un grand fan de Sterling. Et après, Saka, c'est vrai que sur ce côté droit-là, Foden, je pense qu'il est plus un joueur axial pour moi, encore une fois, mais peut-être pas pour Sylvain Ripoll anglais, mais pour moi. Et après, on verra les choix qu'il va faire, mais je pense que lui aussi a beaucoup de soucis avec ces joueurs-là et savoir qui choisir.
Moi, je pense quand même que cette attaque, intrinsèquement, je pense que c'est la meilleure. Marcus Rashford qui retrouve ses qualités, faut pas oublier. Hein. Moi, pour moi, c'est un des plus grands talents du football européen.
Moi, je suis d'accord avec toi, Kevin. C'est un type qui, a eu des problèmes dans sa tête, a eu des trous, mais potentiellement, c'est un gars qui peut jouer la concurrence de Mbappé dans les meilleurs joueurs européens.
Ah, franchement,
après le mental au très haut niveau, ça fait aussi la diff. C'est pour ça que Mbappé est devant aujourd'hui. Mais potentiellement, Rashford, c'est bien sûr,
Mbappé est devant, mais tu vois, je mets Marcus Rashford au même niveau que des Raphaël Léao, des joueurs qui vraiment ont le potentiel pour être dans le top 10 derrière Mbappé et Haaland, quoi, parce que vraiment c'est un joueur. Alors on sait aussi pourquoi il a eu des soucis, hein, quand même. Il a donné énormément d'énergie avec son association, avec ce qu'il a fait hors du terrain. Je pense que ça lui a aussi pris. Mais tu vois, il y a un truc, Julien, par exemple, il fait plus des coupes un peu bizarres là comme il faisait. Moi, je trouve que les coupes de cheveux, ça dit beaucoup sur l'état de conscience ou l'état de concentration d'un joueur. Et là, il est revenu à une coupe de cheveux très basique, et je trouve qu'il est bien meilleur depuis qu'il est plus sobre dans sa coupe de cheveux et dans son jeu.
Ouais, peut-être. Alors leur coiffeur, il est quand même là.
Ils ont fait déplacer leur coiffeur,
ils ont payé le voyage au coiffeur. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu plus sobre que ça l'a été. Mais je pense qu'il s'est perdu un moment. Je sais pas si tout ce qu'il a fait caritativement a pu le distraire dans un sens, a pu le gêner dans son football. J'ai un peu du mal, pour être honnête, j'ai un peu du mal à le croire. Même si c'est beaucoup d'énergie, il a fait tellement de bonnes choses, il a été tellement applaudi dans tout le pays que, au contraire, ça aurait dû le booster. Moi, pour moi. Après, je pense qu'il s'est perdu parce qu'il a eu des entraîneurs qui étaient des grandes pipes à Manchester United et que tu pouvais rien en faire et que lui, il a besoin d'être structuré, encadré, entouré et que c'était pas du tout le cas ni avec Solskjaer ni avec Rangnick. Donc, je pense que c'est de ça, il a beaucoup souffert aussi du bordel ambiant de United. Et là, comme par hasard, avec le retour, avec l'arrivée de Ten Hag et le retour de quelque chose beaucoup plus structuré, beaucoup plus discipliné et beaucoup plus en place, bah, forcément, il est bien meilleur.
Alors, la première phase, faisons un petit bilan quand même. On a deux victoires, un nul pour les Anglais. On a un Harry Kane qui finalement n'est pas hyper buteur hein, pour l'instant. Julien, mais enfin tout de même, est-ce que tu as l'impression d'une équipe qui monte en puissance ou est-ce que toi tu restes quand même toujours un peu mesuré ta fameuse théorie du Silver Ripple anglais, tout ça, et tu te dis maintenant j'attends de voir ce qui va se passer. Quel est l'état d'esprit, le tien et l'état d'esprit général en Angleterre?
Ouais, on reste un peu sur notre faim en Angleterre et moi aussi, je l'avoue. On l'a souvent dit dans l'émission. Pour moi, c'est un effectif exceptionnel, vraiment. Alors, j'avais un débat l'autre jour avec un journaliste, un pote à moi du Télégraphe, qui disait, mais non, 2006, c'était meilleur. Voilà, on essayait de comparer par rapport aux effectifs précédents des autres Coupes du Monde. Pour moi, c'est du très, très haut niveau ce qu'il a. Même défensivement, même si effectivement on peut parler de Maguire, de Stones, je comprends bien, c'est pas Beckenbauer et Baresi, mais je pense que c'est quand même des joueurs solides si tu leur mets un vrai plan de jeu sur la table. Je pense que tu as des très bons latéraux. Après, du milieu à l'attaque, pour moi c'est exceptionnel. Donc je reste un peu sur ma faim, les Anglais aussi par rapport au fond de jeu et au jeu développé. Après, le moment où ça clique et si ça se met en place, je pense qu'il peut faire très mal. Je pense qu'on va se diriger vers un France-Angleterre en quart de finale, ce qu'on savait déjà depuis le tirage. Et je pense que ça peut faire très mal si ça se met en place et si ça commence à bien jouer ensemble. Mais si tu prends deux victoires, un match nul, même si le match était, le nul contre les États-Unis était vraiment ennuyeux, mais tu prends, t'as marqué beaucoup de buts, t'as marqué 9 buts en 3 matchs quand même. Même si t'as joué contre des équipes moyennes, c'est pas grave, c'est très positif. Kane ne marque pas, mais il fait encore passe-d'aise ce soir, il fait passe-d'aise contre l'Iran. S'il est dans ce rôle-là et que d'autres marquent à sa place, il n'y a pas de problème, hein, t'as pas besoin qu'il finisse meilleur buteur comme il y a 4 ans. Voilà. Et après, la question, c'est effectivement, sur la compo d'aujourd'hui, le Henderson, Rice, Bellingham, je le voyais venir de très très loin. Et je pense que le conservatisme à un moment du Sylvain Ripoll anglais pourrait revenir, mais ça peut les faire gagner, hein, c'est pas la question. Il fait ce qu'il veut. Mais je pense que voilà, je pense qu'il va revenir vers quelque chose comme ça pour les huitièmes de finale. Il aura peut-être raison. Ils sont forcément favoris contre le Sénégal, c'est logique. Mais je pense que les Sénégalais peuvent leur causer des problèmes, en tout cas dans le côté physique, dans le côté on vous attend, venez, parce que ça reste quand même une équipe qui parfois avec le ballon a aussi du mal contre des blocs bas à créer beaucoup de choses.
Bon, voilà pour les Anglais.
Moi, je continue de les mettre vraiment. Après, c'est sûr que s'ils croisent la France en quart, ça va être un gros gros match. Mais pour moi, ils ont le niveau dernier carré. Hein.
En dessous, quand même, dans l'impression qu'ils nous ont donné, en dessous de la France, en dessous du Brésil, en dessous de l'Espagne, par exemple.
Pas en dessous d'eux.
Moi, je suis d'accord.
La France a l'air très forte, mais s'il y a France-Angleterre demain, tu peux pas mettre ta main au feu que les Bleus gagnent. Il y a trop de qualité chez les Anglais. Des Rashford, des Kane, enfin il y a trop de bons joueurs pour être.
Si la France se fait éliminer par le Silver Ripoll anglais, là,
il y aurait absolument rien de honteux à tomber contre une équipe de vedettes de la première ligue quand même. On est face à un très gros 11 quoi.
Il y a un moment, il faut respecter les Anglais.
Si le cas arrive vraiment, ceux qui me disent la France est favorite, je dis bah ok si vous voulez, mais bon, pour moi c'est totalement ouvert.
C'est 50-50 parce qu'il faut pas oublier, comme dit Daniel quand même. Alors je sais qu'en France France, on a toujours, on aime bien un peu railler les Anglais, mais les Anglais ils restent quand même sur une finale de l'Euro perdue au pénalty face à une très très belle équipe, ouais, de l'Italie. Ils restent face à une demi-finale de Coupe du Monde 2018. Donc quand même, sur les deux dernières compétitions, ils ont été bons. Alors peut-être pas dans le jeu, mais ils ont eu les résultats. Et comme dit Daniel, attends, c'est alors je sais encore une fois que tout le monde ne suit pas la Première Ligue, mais quand même, c'est des sacrés joueurs qu'ils ont. Même si derrière, moi j'aurais préféré voir un autre gardien, voir un autre défenseur, ok, mais que ce soit, comme a dit Julien, les latéraux, le milieu de terrain, les attaquants, ils ont 6 attaquants de grande, grande classe. Eux et le Brésil, c'est les meilleurs attaquants. On dit qu'en France, on en a, oui, c'est vrai, mais eux, ils ont que des attaquants qui jouent dans les plus grands clubs européens. Il n'y a pas de Bundesliga, il n'y a pas de Leverkusen, il n'y a pas de Mönchengladbach dans les attaquants qui jouent dans cette équipe anglaise. C'est que du top 5, top 6 de Première Ligue.
Notre ami Maguire, il était comment, Julien ?
Mais il a fait moins de tête que contre les États-Unis. On s'était régalé, bien sûr, ensemble l'autre jour. Mais ça reste solide. Alors après en face, il faut le rappeler quand même. Hein, c'était le Pays de Galles qui est très moyen, qui a perdu en plus Bale et Ramsey. De toute façon, qui pouvait plus avancer plus déjà avant qu'ils sortent. Donc ça c'est plus simple. Donc encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avec Daniel et Kevin, c'est aussi dur de juger, je trouve, par rapport à cette poule-là où ils ont explosé l'Iran, mais voilà, c'était pas non plus le niveau de cette équipe d'Iran. Après, il y a ce match très très décevant contre les États-Unis qui était pourtant prenable, et donc après cette victoire contre les Gallois très très limitée et qui en plus ont perdu Bale et Ramsey. Donc c'est un peu compliqué, mais défensivement ça a quand même tenu, même si tu prends deux buts en fin de match contre l'Iran, mais sinon ça tient bien quand même. Peut-être ce qu'on pourrait dire juste, c'est qu'ils ont pas vraiment été testés non plus, et que quand tu vas arriver au match coup près maintenant Sénégal, après potentiellement les Bleus, ce manque là d'adversité à un moment, on l'a vu contre les Américains, hein, rappelle-toi, on était ensemble dans le studio il y a deux ou trois fois où c'est chaud, hein, c'est chaud sur leur but et ils s'en sortent juste, il y a la frappe de Pulisic sur la barre. Donc sans être vraiment testés, ils ont été un petit peu fragilisés, j'ai trouvé, défensivement. Mais bon, rien de quoi s'inquiéter, encore une fois. Hein, maintenant, on s'attend en Angleterre à ce que ça monte en puissance. Donc que tu joues mieux déjà contre les Sénégalais, que tu gagnes contre le Sénégal, et puis après, que ce soit... Après, ce sera peut-être les Bleus. Et puis après, la demi-finale, si tu te qualifies, elle sera aussi très dure. Et puis après, forcément. Donc voilà, quoi qu'il arrive maintenant, s'ils veulent aller le plus loin possible, il va falloir monter en puissance.
Sur Direct Studio, j'ai Emerico, qui me dit l'équipe du Pays de Galles, tout de même, c'est très très faible. Ils donnent les deux premiers buts. Bon, c'est vrai qu'on avait quand même eu un Pays de Galles qui, rappelez-vous, lors de l'Euro en France, ça avait été une sorte de révélation.
Ah oui, mais
ça date un peu, vous allez me dire.
C'était il y a 6 ans, voilà. Les générations, les joueurs ont vieilli. Gareth Bale, ouais. C'est un joueur qui est quasi fini maintenant. Joe Allen, Ramsey. C'est les trois joueurs les plus connus de cette sélection, ou en tout cas ceux qui étaient le plus forts. Bah, ils vieillissent. C'est des pays qui n'ont pas des générations spontanées tout le temps. C'est des petits pays. C'est ça aussi la Coupe du Monde, c'est que c'est une confrontation, surtout dans les phases de poule, entre des grosses équipes et des petites équipes et parfois des moyennes équipes. Et ça donne ça. Donc à chaque fois, moi j'entends tout le temps, ah ouais, ils ont gagné, mais c'était contre une équipe en bois. Ah ouais, bah oui, mais c'est la phase de poule, c'est comme ça. La phase de poule, c'est souvent comme en Ligue des Champions. Parfois le PSG ou Manchester City, ils jouent contre Zagreb ou des clubs comme ça. Bon, voilà, de temps en temps, t'as une surprise, mais ça reste quand même très très rare, la surprise. Souvent, la baston, c'est pour qui fait deuxième. Et parfois, t'as une surprise, mais c'est rare, quoi. Au final, on va avoir probablement à chaque fois ce qu'on attendait comme qualifié. Dans le groupe de la France, France-Danemark, dans le groupe de l'Angleterre, ça pouvait être un petit peu plus ouvert, mais après tout, ça va être ce qui était attendu, Angleterre, États-Unis, dans le groupe dont on va parler après, s'il devait y avoir match entre Sénégal et Équateur, mais Pays-Bas a terminé premier. Bon, voilà, il y a pas tant de surprises que ça au final, hein.
Merci Julien.
Salut Julien.
Merci les gars.
Salut, ciao, Julien. Ciao. Dans quelques instants, on aura Ismet pour conclure sur l'Angleterre. On parlera également des États-Unis avec un journaliste qui est présent sur place. Les Américains donc sont en huitième. C'est plutôt une habitude, hein, pour les Américains de se qualifier, mais en général, c'est là que ça s'arrête pour eux.
Donc, oui. C'est une habitude. Je suis pas sûr qu'il y en ait des tonnes, hein, mais bon, il y a sûr quand ils la font chez eux en 94. Il ouais. n'y a pas en 98. Non, il ne doit pas y avoir en 2002, le 8e. Je sais pas, tu vas regarder pendant la pub.
Je regarde.
Faire un bilan, mais je suis pas sûr que ce soit si fréquent que ça.
Et ensuite, le Sénégal sera au programme, ouais, évidemment, et l'équipe de France.
Et les Sénégalais, ça va être leur deuxième fois après 2002.
Ah bah évidemment.
Pour un huitième.
Évidemment, ils avaient été en quart de finale.
Oui, ça, personne ne l'a oublié.
Rappelez-vous. Vous avez bien régalé d'ailleurs en 2002 les Sénégalais. Allez, dans quelques instants, les de retour donc avec un programme chargé jusqu'à 1h du matin, puisque vous le savez, l'after se poursuit jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs ici en direct du Qatar. A tout de suite sur RMC.